Et le journal est présenté par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Gabriel Attal reprend en main l'éducation nationale. Le Premier ministre a convoqué les chefs d'établissement pour confirmer la mise en place de groupes de niveau en collège à la rentrée prochaine. 489 victimes d'abus sexuels au sein de l'Église catholique ont reçu une réparation financière. Un chiffre à comparer aux quelque 330 000 victimes évoquées par la Commission Sauvé depuis 1950. France Info suspend à titre conservatoire son éditorialiste Jean-François Aquili. Selon le journal Le Monde, le journaliste aurait travaillé avec Jordan Bardella sur un projet d'autobiographie du président du RN. En Espagne, les députés votent l'amnistie des indépendantistes catalans, une promesse de Pedro Sanchez qui permet au Premier ministre socialiste de se maintenir au pouvoir avec le soutien des séparatistes. Gabriel Attal et Nicole Belloubet sont à Chartres aujourd'hui pour visiter un collège, un déplacement très politique au lendemain de ce qui s'apparente à un recadrage de la ministre de l'Éducation. Dans un entretien à l'AFP, le Premier ministre a confirmé la mise en place de groupes de niveau en collège à la rentrée prochaine. Ce sera la règle en français et en mathématiques, a insisté Gabriel Attal. La semaine dernière, Nicole Belloubet avait pourtant défendu une approche facultative de ces groupes de niveau, rebaptisés groupes de besoins. Hakim Kasmi, bonsoir.
Bonsoir, Stanislas Vazak.
Cet après-midi, le Premier ministre a convoqué les chefs d'établissement en visioconférence pour leur donner une feuille de route.
Oui, le Premier ministre persiste et signe. Même si le ton était plutôt cordial, Gabriel Attal a confirmé aux chefs d'établissement le maintien des groupes de niveau en français et en mathématiques en 5e et en 6e, en leur indiquant qu'il leur laissera certes un petit délai, le temps de faire les évaluations des élèves, mais une fois passées les vacances de la Toussaint, les groupes de niveau deviendront la règle durant les trois quarts de l'année, sans pour autant leur annoncer de moyens supplémentaires au-delà des 2300 postes prévus lorsque Gabriel Attal était encore rue de Grenelle. Des propos qui n'ont pas forcément rassuré les chefs d'établissement, comme nous l'explique Didier Georges, membre du bureau exécutif du SNPDEN, le principal syndicat des chefs d'établissement.
Il a peut-être introduit une très légère souplesse sur la temporalité de la mise en place des groupes de niveau, mais en tout cas, nous syndicalement et par l'intermédiaire de notre secrétaire général, on lui a dit que même si nous partagions les objectifs recherchés, c'est-à-dire l'amélioration du niveau des élèves en mathématiques et en français, on ne partageait pas la méthode et que ces groupes de niveau, nous étions toujours contre et que nous étions plutôt pour des aménagements pédagogiques de type groupe de besoin. Les pédagogues retiendront qu'un groupe de besoin n'est pas un groupe de niveau puisqu'on ne les organise pas du tout de la même manière.
Le Premier ministre qui a également évoqué avec eux ses inquiétudes sur les montées des atteintes à la laïcité, car même si le port des tenues religieuses et des signes ostentatoires, eux, sont en forte baisse, les contestations des enseignants et des enseignements surtout sont en forte augmentation. Il les appelle donc à la plus grande vigilance.
Hakim Kasmi, merci. Et pour aider les enseignants confrontés à ces atteintes à la laïcité, Gabriel Attal a annoncé la mise en place de cellules d'appui pédagogique. Il y a 20 ans, le 15 mars 2004, la France se dotait d'une loi interdisant le port des signes religieux à l'école. Pour un dessin sur Gaza, la dessinatrice Coco est aujourd'hui menacée de mort sur les réseaux sociaux. Une caricature publiée lundi dans Libération où l'on voit deux Gazaouis courir après deux rats à l'occasion du Ramadan. Un dessin pour dénoncer la famine et moquer l'absurdité de la religion, explique Corinne Ray. Aux injures et aux menaces de mort qu'elle subit s'ajoutent des propos ambigus de certains responsables politiques. « Vous n'aurez pas ma haine, mais vous la méritez », a écrit sur le réseau X la députée LFI Sophia Chiricou. Coco est une survivante de la tuerie de Charlie Hebdo en 2015 alors qu'elle travaillait pour le journal. Elle a reçu aujourd'hui le soutien de l'association Cartooning for Peace par la voix de son président CAC.
J'exprime une solidarité totale et sans nuance à Coco et au journal Libération dans lequel le dessin a été publié. Il montre quoi ce dessin? On y voit un Gaza dévasté, des immeubles en ruine, des morts dans les rues et une population affamée. Donc peu importe la forme d'humour qui est ensuite employée, peu importe que le gag ait un rapport ou pas avec la religion, ce que montre le dessin avant tout, c'est le traitement inhumain actuellement infligé aux populations civiles de Gaza. Je dis juste ça pour ceux qui peut-être auraient mal interprété le sens de ce dessin. Ensuite, solidarité totale parce que aucun dessin ne mérite de menace. Qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, on peut s'exprimer, on peut dire qu'on l'aime pas, on peut dire qu'on le trouve nul, mais il n'y a pas de menace. La liberté d'expression est la même pour tous, pour toutes, pour les dessinateurs, comme pour le public qui s'exprime en direct à l'oral ou qui s'exprime à travers les réseaux sociaux. les menaces de mort sont interdites. Et je voudrais signaler à certains responsables politiques qui se sont exprimés sur ce dessin que l'appel à la haine aussi est interdit. C'est quelque chose qui me semble dramatique, notamment venant de responsables politiques. On l'observe, nous, à Cartooning for Peace, il y a de nombreux pays dans le monde où des responsables politiques qui sont, eux, au pouvoir, se permettent ce petit genre de phrase. Alors, on se mouille pas trop, on pointe quelqu'un du doigt, on dit « cette personne est notre ennemi ». Et on espère, dans le fond, qu'il y aura des petites mains qui iront faire le sale boulot.
Le dessinateur CAC, président de Cartooning for Peace, répondait à Azaïs Perona. Comment indemniser les victimes de la pédocriminalité au sein de l'Église catholique? C'est la mission de l'INIR, l'Instance Nationale Indépendante de Reconnaissance et de Réparation. Fin 2023, 489 victimes avaient obtenu une réparation financière pour un montant moyen d'environ 35 000 euros l'an dernier. 489 victimes indemnisées, un chiffre à comparer aux 330 000 victimes estimées par la Commission Sauvé pour la période allant de 1950 à 2020. Tara Schlegel, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Le travail de l'instance de réparation ne fait que commencer.
D'abord parce que les victimes sont souvent emmurées dans l'indicible de ce qu'elles ont vécu. Pour Jacques, cela remonte aux années 60.
Avec mon frère, le jeudi, on allait donc au presbytère. Et en fait, ce qui se passait, c'est que très tout de suite, sans même prendre de gants, le curé, qui était un colosse avec une grosse tête rouge dans ma tête, il nous prenait sur les genoux et commençait à nous caresser. Il ouvrait notre braguette et puis il nous masturbait. Et puis quand il avait assez avec un enfant, il posait sur une chaise, il en prenait un autre. Moi, j'ai vu faire ça avec trois enfants.
Parmi eux, Jacques, donc, et son petit frère qui a littéralement tout occulté.
J'en ai parlé à mon frère qui m'a dit « que c'est que ton histoire ?» Enfin, écoute, Jacques, je suis vraiment désolé, mais je me souviens absolument pas de ce truc. Donc mon problème, c'était ça, j'étais tout seul, et est-ce qu'on va me croire ?
C'est justement le recueil de cette parole que permet l'instance de réparation. Certes, il y a l'indemnisation en euros, mais c'est rarement l'essentiel, rappelle Lorraine Angenot, docteur en psychologie.
Comme disent souvent les personnes victimes, ce serait un peu facile de nous taper dans le dos en nous disant « c'est bon, vous êtes reconnus » et que ça s'arrête là. L'argent ne répare rien. Il faudrait des millions pour indemniser chaque vie qui a été brisée. L'INIR ne met pas en place une compensation financière. Ce ne sont pas des dommages et intérêts. On est dans un autre cadre de justice restaurative.
Il y a donc 17 référents qui, comme le docteur Angenot, reçoivent les récits des victimes, organisent parfois des cérémonies de réparation. Mais 17, c'est très insuffisant. Aujourd'hui encore, 540 personnes attendent d'être entendues par l'institution. Et pourtant, témoigne Francis Berthaud, lui aussi victime d'un prêtre prédateur, parler l'a lavé de sa honte.
Un jour, j'ai eu envie de m'habiller en blanc, mais totalement. Hein. Et c'est comme une peau que je remets, puis qui est publique. Je l'assume, c'est comme s'il y avait ce nettoyage intérieur, comme s'il transparaissait. Et il ne faut pas garder ça pour soi. Quoi. C'est pas... D'abord, ça donne de la force au bourreau. Et puis, il faut se dégager, quoi, parce que sinon, ça nous ronge. Quoi. Moi, je vois, je revis à 70 ans. Hein.
L'INIR pense d'ici mi-2025 être capable de traiter sans délai toutes les victimes qui le saisiront.
Tara Schlegel, merci. La direction de France Info a décidé de suspendre à titre conservatoire son éditorialiste Jean-François Akili. Selon une enquête du journal Le Monde, le journaliste aurait travaillé avec Jordan Bardella sur un projet de livre autobiographique. La tête de liste du Rassemblement National aux Européennes caracole en tête des sondages pour le scrutin du 9 juin prochain et l'autobiographie annoncée contribuerait à séduire le milieu politico-médiatique, écrivent les journalistes du Monde, Ariane Chemin et Clément Guillou. Mathieu Laurent, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Jean-François Akili est privé d'antenne à compter d'aujourd'hui. Le temps de clarifier la situation, explique France Info.
Oui, avant l'été dernier, Jordan Bardella propose à Jean-François Akili l'écriture, je cite, d'un ouvrage commun. Il refuse. Au journal Le Monde, notre collègue déclare « Je n'ai pas signé de contrat d'écriture pour le livre de Jordan Bardella, moyennant quoi ?» Et c'est tout l'enjeu de cette période de clarification que vous avez mentionné, Stanislas, moyennant quoi Jean-François Akili aurait aidé le président du RN à accoucher de ses souvenirs, maïeutique efficace puisqu'elle a conduit à un début de texte. Tout ceci, a-t-il encore confié au journal Le Monde, relève, je cite, de ma vie professionnelle personnelle. Aujourd'hui, il évoque plus sobrement des discussions avec Jordan Bardella, comme des contacts qu'il noue avec les politiques de tous bords dans le cadre de l'exercice de son métier. Métier qu'il pratique de longue date, sa notoriété l'a propulsé membre du jury du prix du livre politique. Jordan Bardella n'a pas tardé à réagir sur X, à condamner, je cite, ces méthodes pratiquées par le service public qui sont dignes des pires régimes et font honte à la démocratie. Fin de citation. Et moi, non négligeable à la Maison Ronde, Jean-François Aquili est l'un des principaux éditorialistes politiques d'un groupe Radio France qui vient de clarifier les règles appliquées aux collaborations extérieures. Rétribuées ou non, elles doivent être soumises à la validation de la hiérarchie, ce que n'aurait pas fait Jean-François Aquili. Un manquement grave à la déontologie de notre profession qui pourrait ternir la réputation d'impartialité de la rédaction de France Info, s'inquiète enfin la Société des journalistes de la chaîne.
Mathieu Laurent, merci. Jordan Bardella qui ne participe pas ce soir au premier grand débat télévisé des Européennes sur la chaîne publique Sénat. C'est la seule tête de liste absente sur le plateau. Pour le remplacer, le RN a envoyé le député européen Thierry Mariani, réputé pour sa proximité avec la Russie de Vladimir Poutine. Après Vincent Bolloré, hier, la commission parlementaire sur l'attribution des fréquences de la TNT procède aujourd'hui à l'audition de Cyril Hanouna. L'animateur de C8, l'une des chaînes du groupe Bolloré, multiplie les polémiques. Azaïs Perronin, bonsoir.
Bonsoir.
Cyril Hanouna s'est présenté en champion d'une télé populaire et devant les députés, il a aussi dénoncé l'acharnement contre ses émissions.
Vêtu sobrement d'une veste noire, c'est un Cyril Hanouna affable qui se présente devant la commission d'enquête. Il accueille les questions des députés avec calme et s'estime même chanceux d'être là. Preuve selon lui du succès de ses émissions. 2 millions de téléspectateurs tous les soirs, ce serait cette exposition qui expliquerait ses nombreuses sanctions.
Je suis l'animateur qui fait le plus d'antennes. Il y a un vrai acharnement sur mes émissions, on le sait. On doit faire 3 fois plus attention que les autres. Je pense qu'il y a vraiment une forme de lobby qui fait qu'aujourd'hui, des gens veulent, en tout cas, me faire sortir du paysage audiovisuel parce que je dis des choses que personne ne dit aussi à l'antenne.
Les députés reviennent à de nombreuses reprises sur l'altercation avec le député Louis Boyard, qui l'avait insulté en direct, ce qui avait valu à Cyril Hanouna une amende record de 3 500 000 euros. Mais pour l'animateur, il s'agit là d'un cas personnel, d'une trahison d'un ancien chroniqueur de son émission.
Moi, j'ai reçu de nombreux députés sur mon plateau. D'ailleurs, il y en a ici qui sont déjà venus sur mon plateau, avec qui c'est très bien passé. J'ai jamais eu de problème avec aucun député, avec aucun invité. Le seul avec qui j'ai eu des problèmes, c'est Louis Boyard.
Pour éviter ce type de dérapage, les députés lui suggèrent de limiter les temps d'antenne en direct. Le direct est un risque, rétorque Cyril Hanouna, mais c'est l'ADN de C8. Interrogé également sur le pluralisme, l'animateur se défend en expliquant passer autant de temps en plateau avec Jordan Bardella qu'avec Jean-Luc Mélenchon. Et sur les fake news, il se contente de les minimiser en les qualifiant de petites erreurs.
Azaïs Perronin, merci. Amélie Oudéa-Castéra, mise en examen pour diffamation envers Noël Le Graët. La ministre des Sports avait poussé la démission, l'ancien patron du football français, sur fond d'accusations de harcèlement sexuel. Elle avait notamment critiqué son comportement inapproprié vis-à-vis des femmes. L'Assemblée vient d'adopter à l'unanimité une loi visant à freiner la fast fashion, les entreprises de mode éphémères. Le texte prévoit un malus environnemental pour ces produits et une interdiction de leur publicité. En Espagne, les députés ont voté aujourd'hui l'amnistie pour les indépendantistes catalans condamnés ou poursuivis pour leur tentative de sécession en 2017. Il s'agissait là d'une promesse électorale de Pedro Sanchez, le premier ministre socialiste qui a besoin du soutien des séparatistes pour se maintenir au pouvoir. Mais la question de l'amnistie divise l'Espagne. La droite et l'extrême droite considèrent cette loi comme un cas de corruption politique. Mathieu Le Taillac nous appelle de Madrid.
Une dernière fois, la gauche et les indépendantistes ont répété leurs arguments en faveur du texte. Patxi López, porte-parole des socialistes.
Aujourd'hui, nous allons voter la loi d'amnistie et nous allons fermer le cycle de décisions politiques que nous critiquons et qui nous ont laissé la Catalogne dans la situation que nous connaissons. 2 référendums illégaux, une déclaration unilatérale d'indépendance, la division sociale, une crispation grandissante, en définitive, l'affrontement entre les nôtres et les autres.
Des propos qui indignent le chef de l'opposition, le conservateur Alberto Núñez Feijóo.
Ne nous parlez pas de justice parce que vous voulez l'éviter. ni de démocratie, vous liquidez la séparation des pouvoirs, ni d'égalité, vous la liquidez par des privilèges. Et surtout, n'osez pas mentionner la réconciliation parce que cette loi divise l'Espagne en deux, divise la Catalogne en deux.
Un discours majoritaire en Espagne où même une partie de la gauche a du mal à concevoir que des politiques puissent pardonner à d'autres politiques. Mais un discours pour le principe, la loi a bel et bien été votée par 178 voix pour et 172 contre. Elle doit encore passer par le Sénat, où elle sera probablement rejetée par la droite, qui y est majoritaire, puis devrait être définitivement adoptée par les députés en seconde lecture, avant d'entrer en vigueur fin mai ou début juin. La porte sera alors ouverte pour le retour au pays de l'ancien président de la région, Carles Puigdemont, installé en Belgique depuis 2017, pour éviter l'action des juges espagnols.
Mathieu de Taillac, correspondant en Espagne. L'Union européenne a trouvé un accord pour ajouter 5 milliards d'euros supplémentaires au fonds qui finance l'aide militaire à l'Ukraine. Les négociations ont pris du temps en raison des exigences de la France et de l'Allemagne. En réalité, Angélique Bouin, ces 5 milliards englobent une partie des engagements déjà pris par les États membres.
Cette enveloppe européenne a déjà servi à rembourser aux 27 capitales une partie des munitions, canons, drones qu'elles ont envoyées en Ukraine. C'est un fonds communautaire alimenté par les États au prorata de leur PIB. Et pour 2024, il devenait urgent de le réabonder. Mais l'Allemagne, principal contributeur, a déjà promis cette année près de 8 milliards d'euros à Kiev. Berlin voulait donc obtenir que les aides bilatérales soient déduites de sa facture finale. Et ce sera en partie le cas. La France, qui contribue beaucoup également, plaidait, elle, avec force pour que cet argent ne serve à rembourser que les équipements ou armes produits par l'industrie européenne ou ukrainienne. Elle a obtenu elle aussi partiellement gain de cause. Ce sera en effet l'option privilégiée, notamment pour les achats conjoints qui auront vocation à se multiplier. Mais quand nos industriels ne pourront pas répondre à la demande, comme c'est le cas actuellement avec les munitions, alors il y aura des dérogations, une sorte de préférence communautaire pour renforcer notre souveraineté, insiste-t-on à Paris. Aujourd'hui, plus de 60% des armes achetées par les 27 pour l'Ukraine sont de fabrication américaine. Au total, depuis l'invasion du pays par la Russie en février 2022, l'Union européenne et ses États membres ont déjà consacré quelque 28 milliards d'euros en aide militaire à l'Ukraine. Mais la situation sur le terrain est difficile et le manque de munitions criant. Lors de leur sommet de la semaine prochaine, les chefs d'État et de gouvernement européens discuteront des moyens d'aider encore plus et plus rapidement les Ukrainiens.
Angélique Bouin depuis Bruxelles. Un contretemps pour Elon Musk dans ses rêves de conquête spatiale. Le troisième vol d'essai de Starship s'est soldé tout à l'heure par la perte du vaisseau au moment de son retour sur Terre. L'immense fusée est l'un des fleurons de SpaceX, l'entreprise spatiale du milliardaire. Cécile de Kervas-Doué, bonsoir.
Bonsoir à tous.
SpaceX s'est tout de même félicité d'avoir rempli de nouveaux objectifs. Il faut rappeler qu'Elon Musk veut lancer Starship vers Mars et la NASA compte utiliser la fusée pour déposer des astronautes sur la Lune dès 2026, Cécile.
Oui, et le programme a du retard, hein, puisque normalement, le vaisseau devait être prêt pour 2025, pour la Lune. Donc. Mais cette fois-ci, l'échec est tout de même relatif, puisque le décollage a réussi, tout comme la séparation et le vol spatial. C'est la rentrée dans l'atmosphère et le rallumage des moteurs pour récupérer les deux parties de la fusée qui n'a pas fonctionné. Et surtout, le vaisseau a ensuite été perdu. Pas un succès complet, donc, pour ce nouveau vol d'essai, mais ça fait partie de la méthode SpaceX, rappelle Paul Vorer. Il est spécialiste des évolutions technologiques et industrielles du spatial à l'Institut français des relations internationales.
La méthode que SpaceX emploie pour le développement de son Starship, qui est dite de développement itératif, consiste à tester de nombreuses fois les vaisseaux eux-mêmes pour en tirer des leçons, pour améliorer le design et l'opération de ces différents systèmes. Donc, c'est un développement qui a un certain coût, puisque c'est quand même une mission qui est faite à perte. C'est un mode de développement qui est assez nouveau, parce que les développements spatiaux, jusqu'ici, étaient essentiellement financés par de l'argent public. Donc, on a aussi un petit peu une différence de philosophie. Et il n'est pas prouvé, à l'heure actuelle, que la méthode itérative soit nécessairement, dans tous les cas, plus efficace que les méthodes traditionnelles employées en Europe.
Et pourtant, l'Europe tente bien de copier ce modèle via le développement de petites start-up pour de futurs micro-lanceurs privés en Europe, car aujourd'hui, le lanceur Falcon 9 de SpaceX sert à envoyer la plupart des satellites du monde dans l'espace. De quoi financer, vous l'aurez compris, les multiples essais de ce Starship. Et c'est prévu à près d'une centaine.
Cécile de Kervas-Doué, merci. Du cosmos à la Terre, il n'y a qu'un pas. Le temps demain sera perturbé. soleil, instable et souvent pluvieux sur les deux tiers nord du pays. Au sud, le soleil dominera. Les températures minimales iront de 3 à 11 degrés. L'après-midi, il fera entre 13 et 21 degrés du nord au sud. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun à la technique Florent Bujon.